Alors, est-ce que vous avez Moïse sous les yeux?
Non.
Non?
Non.
Aïe, 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 aïe.
Pas
Pourquoi?
encore. Attends.
Pas encore?
Non.
Attendez. Partagez l'écran. Voilà.
Oui.
Ça y
Ah,
est.
nous
Ça
l'avons.
y est.
Moïse.
Ça y est. Voilà. Bon, ils
C'est
avaient
bon.
mis un peu de temps pour arriver. Il vient de
Voilà.
loin. Il vient de loin, un petit peu de temps pour arriver. Ça va?
Oui.
Voilà. Alors, c'est autour de Moïse qu'on va parler ce soir. Et c'est la figure de Moïse que vous allez essayer de construire à votre façon en travaillant les textes. Un Moïse qui, pour moi, a été d'abord difficile, difficile à, justement, à approcher, à construire, à entourer, parce que on a plein d'images dans la tête et que le texte lui-même montre un Moïse tout à fait paradoxal, en fait construit autour de paradoxes, en tension. Les figures de Moïse sont diverses et c'est assez intéressant de voir comment, bien, petit à petit, le personnage se bâtit. Pour vous montrer des paradoxes, alors d'abord cette... Attendez, j'arrive pas à faire défiler mon PowerPoint. Pourquoi il veut pas défiler le suivant? Ah, voilà. Le Moïse de Michel-Ange, que vous connaissez tous, terrifiant, Moïse dans toute sa puissance physique d'abord, et puis d'autres Moïse qu'on verra, celui de la mosaïque de San Vital et à Ravenne, un Moïse jeune et un Moïse qui regarde l'invisible. Ça va être finalement quelque chose qui pour moi est important dans la figure de Moïse. Alors, un Moïse paradoxal. Paradoxal enfin, il le continue à l'être dans le Nouveau Testament. Il continue à l'être dans le Nouveau Testament puisqu'on a la figure de Moïse vue par Paul qui ne condamne pas Moïse, mais qui secondarise, rend secondaire la loi par rapport à la foi en Christ et qui dit que Moïse, c'est le livre, c'est l'écriture, et que pour lire Moïse, il ne faut pas avoir un voile sur le cœur, il faut lire Moïse selon l'esprit. En même temps, vous avez dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, des phrases très fortes de Jésus. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi. Voilà. Donc, voilà, il faut croire en Moïse, pour croire en lui, c'est d'abord aussi croire en Moïse. Dans l'Ancien Testament, ce qu'on va lire et ce qu'on va rencontrer, on a un Moïse qui est à la fois un homme violent. Le Moïse de Michel-Ange s'enflamma de colère, il jeta les tables et les brisa. Et un homme dont il est dit, Moïse était un homme très humble. Alors on traduit humble, modeste. Ska traduit un géant modeste. D'où on traduit aussi plus humble qu'aucun homme de la terre. Ce même Moïse, Dieu dit de lui, c'est mon serviteur, mon homme de confiance, à qui je parle bouche à bouche, ailleurs face à face, en me faisant voir, on en reparlera, il voit la forme du Seigneur. Et puis à un autre endroit, pas tellement loin, on a cette affirmation de Dieu, ma face, nul ne peut la voir, et toi, tu verras simplement mes arrières, mes traces. Voilà, des contrastes sur lesquels je vais essayer de développer un Moïse en trois, si vous voulez, en trois temps. Moïse et l'Exode, Moïse, la figure de la libération du peuple, de la marche dans le désert et de la constitution d'un peuple avec qui Dieu fait alliance. Le Moïse qui parle face à face avec Dieu, Moïse dans l'intimité de Dieu. Voilà, le Moïse, on va dire, la dimension mystique de Moïse, elle y est. Hein. Et troisièmement, le Moïse médiateur et le Moïse qui se confond finalement avec la loi, puisque dans le Nouveau Testament, vous avez dans les Actes, chaque sabbat, on lit Moïse, tellement il est identifié à la loi dont il est le médiateur. Alors, commençons par Moïse et l'Exode. C'est la figure la plus connue, la plus représentée. Et donc, de fait, nous allons lire surtout les textes de l'Exode, même s'il y en a d'autres dans les Nombres et dans le Deutéronome. Et tout de suite, je veux éliminer les questions de type historique, en affirmant clairement, je crois que c'est l'avis général aujourd'hui, qu'il n'y a pas de source historique. Pour qu'il y ait histoire, il faut croisement de deux sources. Et rien ne vient croiser exactement les textes bibliques pour qu'on puisse établir une figure de Moïse à l'époque des pharaons. Il n'y a pas d'ancrage historique ferme pour l'Exode. Alors, Thomas Romer est ferme. Mario Liverani, lui, dans son travail sur l'histoire, vraiment, d'historien sur Israël et l'histoire ancienne d'Israël, il gomme même l'Égypte. On ne parle pas d'Égypte. Voilà, il n'y a pas d'Égypte, au moins anciennement. Voilà, alors, en fait, on est bien d'accord, Moïse n'est pas un personnage que l'historien peut atteindre ni vérifier. L'Exode non plus. L'Exode non. Mais il y a des éléments qui créditent une certaine vraisemblance. Alors, je les énumère rapidement. La puissance des pharaons du Nouvel Empire, le plus connu, c'est Ramsès II, mais qui domine la région qui s'appelait à l'époque la Syrie, ou qui s'est appelée plus tard la Syrie, que nous appelons la Palestine, en prélevant le tribut sur les petits rois cananéens qui sont là. Et de temps en temps d'ailleurs, lorsqu'ils se révoltent, qui, avec leurs armées, vont les combattre et gagner, puisque nous avons, alors là pour le coup c'est historique, une stèle, la stèle du pharaon Merimpta, qu'on date, alors elle a été datée de 1130, 2230, 2200, 1205, j'en sais rien, mais enfin voilà, c'est ancien, et c'est autour du 13, 12e siècle, 13e, 12e siècle. Et sur cette stèle, il est écrit qu'Israël, première fois qu'apparaît le nom d'Israël, mais donc, entre autres tribus et peuples vaincus, il y a un Israël qui est vaincu et qui a, dit le texte, perdu sa semence. Voilà. Et puis, il y a ces peintures murales dans les tombeaux royaux. Alors, ces peintures murales, elles s'étendent depuis le 19e siècle jusqu'au 8e, 7e siècle. Il y en a... Mais très anciennement, on voit apparaître sur ces peintures des personnages qui ressemblent à des sémites. Alors là, c'est pas des gens dont on prend la corvée, mais c'est des gens qui viennent apporter des offrandes, peut-être des tribus au pharaon. Et certains d'entre eux, coiffures, barbe, nez, vêtements, sont repérés comme des sémites. Et puis plus récemment, une tombe du 15e siècle, la construction des pyramides, où on est bien obligé de penser qu'il a fallu une main-d'œuvre énorme, taillable et corvéable à merci, qui est certainement morte par milliers. Et on a au 12e siècle, 13e siècle, le récit de révolte d'esclaves dans les mines ou dans les carrières, avec même un général qui a pris la tête de cette révolte d'esclaves. Bon, évidemment, ça se termine toujours mal. Voilà, la révolte est matée et on rentre dans le rang. On a même un récit de tentative de coup d'État par un gars, Béa, qui a un nom avec le nom Yah du dieu d'Israël et qui s'est appuyé sur ces groupes de nomades qui descendent en Égypte et puis qui se transforment souvent en pillards, en gens qui font des coups de main. Lorsque les Égyptiens s'emparent d'eux, ils en font des esclaves pour construire leurs monuments, qu'on appelle les Apirous ou les Chassous. Qu'on a identifié aux Hébreux, les Apirous, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, ah ça y est, je tiens, ils sont identifiables aux Hébreux, il y a un autre spécialiste qui se lève pour dire, il n'en est pas question. Moi, je ne suis pas spécialiste, je vous livre, voilà, le fait, l'état probablement actuel de la Vulgate. Il y a donc des vraisemblances. Voilà. Le nom de Moïse, la chose la plus vraisemblable et la plus interrogeante, la plus étonnante, c'est le nom de Moïse. Parce que Moïse, c'est une racine MSS, fils d'eux, qu'on retrouve dans Ramsès, le fils du dieu Ra, le soleil, dans Thoutmès, le fils du dieu Thoth, le dieu de l'écriture, Thoth. Et que la translittération du mot en hébreu est ancienne, après les translittérations de mots égyptiens ont été un peu différentes pour ces racines. Donc, un nom ancien. Et puis un jour, sur la stèle d'un général de Ramsès II, qui est au musée d'Ildesheim, on a lu le nom Mossé ou Moshe, etc. Et alors, il y a eu une affluence incroyable vers ce musée. Tout le monde a voulu venir voir le nom de Moïse. Bon, c'est un général de Ramsès II. Enfin, il y a un nom ancien qui ne prouve rien, sinon qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et qu'il y a probablement un nom ancien, il y a peut-être même des personnages réels. En tout cas, il y a certainement une figure littéraire qui n'est pas composée à partir de rien et qui fait du médiateur d'Israël, de celui avec qui Israël va s'identifier, avec qui il va identifier sa loi, qui est quand même le lien par excellence avec son Dieu, qui porte un nom égyptien. C'est pas rien. Voilà, qui porte un nom étranger et en particulier égyptien, Moïse. En réalité, Ce qu'il apparaît, alors là, on est sur un terrain beaucoup plus sûr, c'est que les récits de l'Exode, pas encore de Moïse, de l'Exode, ont été composés ou réécrits essentiellement dans le royaume du Nord en fonction de la menace assyrienne. Vous savez que les Assyriens ont menacé le royaume du Nord tout au long du 9e et surtout 8e siècle, pour finir par prendre Samarie en 721, vider le pays, transférer la population et disparition du royaume du Nord. Or, on trouve dans les récits de l'Exode, notamment pour les corvées chez les Égyptiens, un vocabulaire qui est assyrien, qui sert à dire les corvées des Assyriens. De même pour la description du désert, qui est davantage la steppe qu'il faut traverser pour passer d'Assyrie en Israël que les déserts égyptiens. Voilà, donc, et puis il y a la légende, alors qui est une légende assyrienne, donc de ces royaumes, de ces empires du Nord, qui a été mise à l'honneur au moment où le royaume du Nord est en train de tomber par le roi Sargon II, qui raconte, qui a récupéré la légende de la naissance de son ancêtre Sargon, qui est le fils d'un dieu mis sur un fleuve ou d'une déesse mise sur un fleuve et sauvée des eaux par une prêtresse, évidemment le modèle pour une naissance et un salut de Moïse, dont le nom en hébreu est réétymologisé, recompris comme sauvée des eaux. Mais ce n'est pas sa véritable étymologie. Voilà. La montée d'Égypte, elle est présente où? Où c'est que le récit se construit? On le voit apparaître, si vous voulez aller lire, dans le livre d'Osée, par exemple, où vous avez quelques phrases, ou même quelques chapitres, Osée 11, 12, où Dieu dit: d'Égypte, j'ai fait venir mon fils, Israël, avec une image déjà du Dieu Père, hein, on est en 730 ou 740 ou 720, mais pas plus tard. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu depuis le pays d'Égypte. Et enfin, mais par un prophète, le Seigneur a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Ce prophète est-il Moïse? Il n'est pas noté. Il n'y a pas le nom de Moïse dans ce récit qui naît au nord, en lien avec le danger assyrien qu'on voit apparaître chez le prophète Osée et qui va certainement donner naissance aux parties les plus anciennes du Deutéronome. Puisque le Deutéronome est certainement, dans ses parties anciennes, un livre mis en forme déjà dans le royaume du Nord, et que les réfugiés du Nord qui ont pu échapper à la mainmise assyrienne vont emporter avec eux au Sud après 721. Il va y avoir des réfugiés, comme dans tout pays qui est envahi et quand il y a des déportations. Et la légende de Moïse, elle apparaît probablement dans le royaume du Sud, près d'un siècle après, sous le roi Josias, qui est le roi célèbre du royaume du Sud, pour une réforme religieuse dont on reparlera, mais qui met à l'honneur le Deutéronome et qui fait peut-être apparaître de façon plus forte le personnage de Moïse et sa loi. Et puis, tout cela va être repris et prendre forme quand? Eh bien, lors de l'exil à Babylone, et surtout lors de la fin de l'exil. Parce que l'exil à Babylone va être vécu par ceux qui veulent rester fidèles comme une nouvelle période de servitude quand, où? Eh bien, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont rechercher la servitude en Égypte, qu'ils vont rechercher les vieux récits que le royaume du Nord avait déjà un petit peu mis en forme et consignés, puisque eux sont dans un exil qui est vécu vraiment comme, non pas un esclavage, ils ne sont pas esclaves, mais une perte de tout ce qui fait leur identité. Plus de terre, plus de droit, plus de temple, plus de culte. Et donc, à ce moment-là, vous le savez, une intense réflexion autour de l'identité juive, autour des traditions, de rites qu'on va voir se fonder justement dans les récits autour de Moïse. Ils sont mis à l'honneur, ces rites, le rite de la Pâque, les rites de l'Alliance, pendant l'exil à Babylone. Et le retour, à partir de 538, mais surtout 520, de quelques-uns, va être vécu comme un nouvel exemple, un nouvel exode. On rentre comme autrefois ils sont rentrés, à travers les steppes et à travers le désert, vers le pays que Dieu a donné à nos pères. Alors avec un paradoxe, parce que à la fois on rentre et on se souvient du passé qui va au fond donner de quoi penser la nouveauté de ce retour, et considérer que là il se passe quand même quelque chose d'inouï. Si vous lisez les magnifiques chapitres d'Isaïe sur la question, Isaïe 43, ne vous souvenez plus du passé. Je fais toute chose nouvelle. Et en même temps, Isaïe va raconter le retour, alors retour de Babylone à Jérusalem, comme un nouvel exode. Dieu dit, je mettrai un chemin au milieu du désert, des fleuves dans les terres arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Et à la même époque, un autre prophète, Ézéchiel, plus proche probablement des groupes sacerdotaux, va aussi raconter ce retour à Jérusalem comme un rassemblement qui ressemble à la sortie, à ce que l'on a raconté alors de la sortie d'Égypte. Je vous rassemblerai de tous les pays dans lesquels je vous ai dispersés, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Voilà. C'est à ce moment-là que va avoir lieu la fusion de diverses traditions qui vont donner la Torah, les cinq livres, et nous sommes sur au moins trois ou quatre de ces livres. Bien sûr, Exode d'abord, Nombre ensuite, Deutéronome ou Deutéronome et Nombre, mais le Lévitique, c'est aussi la loi de Moïse. Donc, à part la Genèse, on est vraiment dans la Torah. Et c'est à ce moment-là que se fusionnent plusieurs traditions. Généralement, actuellement, pour faire simple, on considère qu'il y a un courant deutéronomiste héritier des traditions du Nord, avec un Moïse qui est davantage prophète, un Moïse bien sûr législateur, puisque c'est le Deutéronome qui est formé uniquement de discours de Moïse, et puis le courant des prêtres, un courant plus sacerdotal, avec un Moïse qui est davantage médiateur. Et alors ça, vous le travaillerez et vous allez le voir de façon, j'allais dire, très concrète, le toucher du doigt, en travaillant Exode 14. C'est vrai aussi dans d'autres textes, hein. Mais dans Exode 14, on a un texte exemplaire qui fusionne habilement deux traditions, alors que le travail des exégètes est arrivé à peu près dissocié. On va vous donner les traditions dissociées, puis vous les refusionnerez pour avoir un texte complet, si on peut dire. Mais en tout cas, on voit apparaître une double figure de Moïse. Moïse qui, dans un geste de prêtre, et qui est le geste même de Dieu, en fait, qui reproduit le geste de Dieu, sépare les eaux pour faire apparaître quoi? La terre sèche. Exactement, selon la grande liturgie de Genèse 1, parce que c'est une liturgie où Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et fait apparaître la terre sèche. Et on voit bien que le récit d'Exode 14, eh bien un récit où on considère que la sortie d'Égypte, où Moïse ouvre comme ça les eaux, est un récit à la fois de libération, bien sûr, mais de nouvelle naissance, de nouvelle création. Il y a une nouvelle genèse. Le peuple passe de la mort à la vie. Et il y a même de bons exégètes récents qui ont dit, mais enfin, ce passage par le goulot étroit entre deux murailles, c'est évidemment un accouchement. Bon, tout ça, c'est des images, mais pour dire qu'on a là un Moïse qui, au fond, reproduit le geste créateur et bénissant de Dieu. En même temps, tout à fait bien lié à ça, vous avez un récit, plus deutéronomiste peut-être, qui voit en Moïse le prophète qui demande au peuple sans arrêt de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas prendre la mauvaise solution, et ça va revenir ensuite sans arrêt quand le peuple murmurera dans le désert, ne retournez pas, ne replongez pas dans la servitude. Ne replongez pas dans la servitude, la liberté c'est dur, mais faites confiance à Dieu, tenez bon. Et on a là des expressions de Moïse qui s'adressent au peuple qui a peur devant l'arrivée des Égyptiens par derrière. N'ayez pas peur, tenez bon, le Seigneur va combattre pour vous. Vous retrouvez ça dans le livre d'Isaïe 7, hein, au chapitre 7, lorsque Isaïe va demander au roi, alors c'est le roi du sud de Juda, de tenir bon devant la menace assyrienne qui maintenant se déplace du royaume du nord abattu vers le sud. On a exactement ce vocabulaire-là. Voilà. Le vocabulaire d'un Moïse prophète. Or, le texte se termine avec une expression qui va plutôt dans le sens de Moïse prophète, ou qui est une expression en tout cas inouïe. Il n'y a rien de tel ailleurs dans la Bible. Le peuple mit sa foi, comme Moïse l'avait demandé, en Dieu et en son serviteur Moïse. Voilà. Il n'y a personne d'autre dans la Bible en qui on dit qu'on met sa foi comme on met sa foi en Dieu. Donc, un Moïse ici très proche de Dieu, même si dans le livre de Samuel, on a le peuple a craint Samuel comme il a craint Dieu. Mais ce n'est pas pareil de mettre sa foi en Dieu et en son serviteur Moïse. Alors, à Chagall, parce que j'aime beaucoup Chagall, c'est à la fois le Moïse législateur, puisqu'il a déjà les rayons sur la tête d'avoir vu Dieu, et le Moïse qui ouvre la mer et qui fait traverser le peuple. Accueilli par et mené par l'ange du Seigneur. Alors, ce Moïse, en qui on met sa foi comme on met sa foi en Dieu, ça m'amène à une deuxième figure de Moïse. Moïse, le prophète, il faudrait même dire le serviteur, mais le deuxième Isaïe, c'est un prophète serviteur, hein, qui connaît le nom de Dieu, et on peut même dire dans une phrase, à un endroit donné, qui a vu la forme de Dieu. Or, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Voilà, un des paradoxes. Bon, Moïse est la révélation du nom de Dieu. Ça, il faut vraiment le travailler parce que c'est quand même essentiel dans l'Exode. Vous lirez, mais vous aurez pas, vous n'allez pas le travailler ensemble. La naissance de Moïse, ça c'est comme un roman, ce Moïse entre deux peuples. Et puis ce Moïse qui va, au fond, jeune homme, se révolter pour défendre son peuple, se révolter contre l'injustice. Puisqu'il tue un Égyptien qui est en train de maltraiter un de ses frères hébreux, alors que lui, Moïse, est quand même entre les deux, est élevé au palais du roi d'Égypte. Et ça n'est que lorsque Moïse s'est révolté, et à cause de cette révolte, et parce que, évidemment, aussitôt, les autres vont avoir peur et vont se désolidariser de lui. Hein, Moïse est celui qui est solidaire et qu'on rejette toujours. Quand Moïse a fui, que Dieu enfin se souvient. Dieu enfin se rend compte. Il a fallu ça pour que Dieu se souvienne et vienne à la rescousse de son peuple. Et vous avez donc, au chapitre suivant, pris un peu un sandwich entre la phrase répétée, Dieu se souvient, Dieu se rend compte, puis ça sera repris en 4:18, hein, Dieu appelle, entre les deux, la vocation de Moïse comme une vocation prophétique. Au chapitre 3, avec un schéma de vocation, bon, on a facilement résumer les schémas de vocation en disant il y a cinq moments. Moi, je veux bien la vision ou l'appel, la mission, les objections, la réponse aux objections et la conclusion. La particularité, là, elle est double. C'est d'abord qu'il y a une grande abondance d'objections. Moïse ne se laisse pas faire. Jérémie aussi. Jérémie va se refuser, se soulever. Tous les prophètes, même Isaïe qui veut bien, mais enfin. Mais alors, Moïse y résiste longtemps. Et quel est ton nom? Et qu'est-ce que je leur dirai? Et puis moi, qui suis-je? Et puis d'abord, je ne sais pas parler. Et puis je ne vais pas y arriver. Et d'ailleurs, la première mission de Moïse, ce sera un échec. Réponse à ces objections des révélations de Dieu. L'une au tout début, l'autre pour le relancer après son échec. Révélation de Dieu, vous le savez, c'est l'épisode dit du buisson ardent. Alors, repris, je vous l'ai montré tout à l'heure dans la cathédrale Saint-Vital et le buisson ardent avec toutes ces flammes qui entourent Moïse. Moïse pris dans les flammes, qui est en train d'enlever ses sandales puisqu'il ne doit pas fouler ce sol qui est un sol sacré. Et vous avez le buisson ardent, alors de Chagall, il y en a plein. Celui de Raphaël qui est très amusant parce qu'il y a un dieu qui sort des flammes. Il y a même des buissons ardents assez impressionnants en Russie, je crois aussi, mais dans des monastères russes, ça j'en suis sûre, où il y a Marie au milieu des flammes. Bon, pour le moment, on va se contenter de Moïse. Avec la révélation du nom de Dieu, ce nom étrange, je suis avec toi, je suis ou je serai qui je serai. Je suis m'a envoyé vers vous, voilà ce que tu leur diras. Alors, un petit détour sur ce nom de Dieu, puis après vous travaillerez. Il y en a plusieurs, hein, de noms de Dieu dans la Bible. Dieu n'a pas un seul nom, ça c'est sûr. Il s'appelle aussi El, le nom grand Dieu, du nord, d'Ougarit et de la Mésopotamie. Mais le nom du Dieu d'Israël, c'est le tétragramme, le nom qu'on ne prononce pas. Donc, on donne les voyelles, pas les voyelles, les consonnes, en hébreu, il n'y a que des consonnes, Y, H, W, H. On suppose que dans le passé, le nom a été prononcé quelque chose comme Yahvé, par respect pour la tradition juive, qui depuis au moins le 5e siècle avant Jésus-Christ ne prononce plus le nom de Dieu. On a décidé, la plupart des Bibles le font maintenant, de ne pas le prononcer non plus. On écrit YHWH ou bien la Tobe a choisi d'écrire le Seigneur en petite majuscule. Quand vous voyez dans la Tobe le Seigneur en petite majuscule, c'est le nom propre de Dieu. Pourquoi ça? Parce que le nom imprononçable dans la Bible hébraïque est remplacé par les voyelles du mot Adonai, le Seigneur. Et on décide de prononcer Adonai. Voilà. Le Seigneur Dieu, c'est donc Adonai Elohim. La Tobe dira le Seigneur Dieu, etc. Alors, d'où il vient ce Dieu? Probablement, il est ancien. Divinité du Sud, on le voit apparaître dans le plus ancien texte de la Bible, très probablement, le Cantique de Déborah, une femme juge, au chapitre 5 du livre des Juges. Dieu vient de Séir. Dans des psaumes, il vient d'Édom. C'est un dieu de la montagne, peut-être du Sinaï. C'est un dieu de l'orage. Le psaume 18, un incroyable psaume au dieu de l'orage. Bon. Ce dieu va devenir donc le nom propre du dieu d'Israël. Et ici, ce nom est là. Et il y a un jeu sur l'étymologie, puisque son nom est rapproché du verbe être. Donc je vous ai mis les. Évidemment, translittéré en lettres françaises. Hein. Les consonnes du verbe être, en hébreu, le Y et le W, I et U, c'est des lettres très proches, puisque le I, c'est un petit crochet, et que le U ou le W, c'est un crochet allongé, avec une jambe. Voilà. Donc, c'est très proche. Et il y a probablement ici un jeu sur l'étymologie. On rapproche ce nom de je suis ou je serai. Voilà. En même temps, c'est tout de suite et d'abord dans l'expression « je suis ou je serai avec vous ». Être avec, c'est le nom de Dieu qu'on trouve toujours dans le même texte d'Isaïe, chapitre 7, donc un texte ancien, au verset 14, où le jeune roi qui va être appelé le fils de la jeune femme, celui qu'on attend, le roi qui va sauver le pays, va porter le nom de Immanuel, c'est-à-dire elle, Dieu, alors un autre nom de Dieu, mais Dieu avec nous. Le avec nous, là, il résonne très fort, et de fait, dans plusieurs textes prophétiques de la Bible, Dieu est celui qui est avec son peuple, qui l'accompagne. Quant à la fameuse formule d'Exode 14, je suis qui je serai, je dirais, elle a deux aspects. Puis après, vous pourrez vous poser des questions, et puis vous aussi l'interpréter. C'est une formule circulaire. Si vous dites à quelqu'un je suis qui je suis, ça veut dire ça ne te regarde pas. Voilà. Et on a des formules circulaires comme ça dans l'Exode. Dieu qui dit à Moïse, qui s'inquiète de savoir qui va être puni ou non, je prends pitié de qui je prends pitié. Et puis, voilà, je suis libre. En même temps, le verbe être qui est là est en hébreu, non pas un verbe d'être, comme le grec le comprendra, je suis celui qui est. Mais c'est un verbe d'action. Je suis agissant. J'agis dans l'existence. J'existe en faisant. Et il est une forme, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de temps, qu'on appelle l'inaccompli, qui est d'une forme qui dit que l'action n'est pas finie. Elle est ouverte, peut-être dans le passé, mais surtout sur l'avenir. Si bien que, à la fois, la formule est un circulaire, fermée, Dieu est libre et on ne mettra pas la main sur Dieu. Et en même temps, elle dit que il faut avancer avec lui pour en comprendre quelque chose dans le temps et dans l'histoire. Je crois que la phrase finalement qui dit le mieux cette formule est de Lévinas. Je serai avec vous agissant au cours de l'histoire à mesure que vous le découvrirez. Mais elle s'appuie sur une phrase de Rashi, qui est le grand commentateur juif de Troyes, donc c'est une fierté de la France au XIe siècle. Et vous savez que les commentaires de Rashi sont entrés dans le Talmud. Voilà, ça fait partie des écritures juives. Rashi dit qu'il faut comprendre, je serai avec eux en cette détresse, comme je serai avec eux lorsqu'ils seront asservis à d'autres. Donc à travers l'histoire, ça les accompagne. Alors voilà, le nom de Dieu, vous le voyez dans le dessin, la peinture de Chagall, écrit dans le soleil, dans la lumière qui apparaît en haut à gauche, avec un Moïse devant le buisson ardent. Et puis, il y a un échec de Moïse. Moïse y va, et finalement, la réponse du Pharaon, c'est « Si c'est comme ça, je vais alourdir ma main sur les Hébreux, sur ces esclaves, et ils vont avoir encore plus de travail qu'avant. Maintenant, ils vont fabriquer leurs briques. » C'est-à-dire qu'en fait, Moïse et Aaron ont raté. Et ils viennent se plaindre auprès de Dieu, en disant « Maintenant, voilà à quoi ça mène de nous avoir envoyés. » Et il va y avoir une réponse du Seigneur qui est à nouveau une espèce d'auto-définition de Dieu dans l'histoire. Avec le passé, c'est moi le Seigneur qui encadre le texte, et le passé, une reprise de l'alliance avec Abraham, mais on voit que le lien est fait entre l'histoire des patriarches et le Dieu qui se révèle aux patriarches avec souvent des autres noms, jusque au Dieu qui parle à Moïse, et le lien est fait aussi avec l'histoire du peuple qui est en esclavage, puisque j'ai entendu la plainte des fils d'Israël et je me suis approchée. Au centre, l'envoi à nouveau de Moïse à son peuple avec l'affirmation de Dieu, dit aux fils d'Israël, c'est moi le Seigneur, c'est moi le tétragramme. Et la promesse, qui s'appuie donc sur le passé, toujours dans la Bible, la promesse et l'ouverture vers le futur s'appuient sur le passé, donc sur l'Égypte et là plus avant, sur les patriarches. Je vous ferai sortir, je vous prendrai comme mon peuple, pour vous je serai Dieu, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est moi le Seigneur. Et donc au centre, il y a cet ordre donné à Moïse qui devient au fond la cheville ouvrière. La charnière de l'alliance de Dieu antérieure avec les patriarches, de la promesse faite aux patriarches et de la promesse qui doit se dérouler dans l'avenir, l'alliance de Dieu avec son peuple sorti d'Égypte dans le désert. Puis une figure de Moïse étonnante et de fait, Moïse va être dans le désert, le prophète envoyé par Dieu et qui va, eh bien, comme Dieu est avec Dieu, accompagner ce peuple, son peuple, dans le désert. Et sa vie va pas être facile. Et sa vie va pas être facile. Alors, je dis quelques mots de tout ce grand passage à travers le désert qui va s'étendre des chapitres 16 au moins au chapitre 40, en fait, même si après 34, on entre dans la construction de la tente et je ne vous propose pas de lire des chapitres qui sont quand même pas du tout drôles à lire sur l'édification de la tente au désert avec la longueur, la largeur, la profondeur, ce qu'il faut y mettre, etc. Mais on va avoir de longs chapitres de traversée du désert et vous savez que, alors ça se poursuit dans le livre des Nombres, à cause de la faute du peuple, la première génération va piétiner dans le désert et ne pas entrer dans la terre. Je le redirai, Moïse non plus. Le désert prend là deux figures opposées. C'est très intéressant parce que c'est vrai aussi chez les prophètes. Le désert dans la Bible a toujours des figures en contraste et Moïse va aussi épouser cette double figure du désert. D'abord, il y a une vision positive. Dieu accompagne son peuple, répond à ses murmures, même si le peuple passe son temps à râler, et le sauve des dangers du désert. Il le sauve de la soif, à Mara d'abord, les eaux amères, à Massa et Meriba, le lieu où il y a épreuve imposée à Dieu, mise en cause de Dieu et querelle, de la faim, la manne, et dans les Nombres, les cailles, puisque Dieu envoie des cailles jusqu'à ce qu'ils en aient mal au cœur, tellement ils en auront mangé. Et puis les ennemis, les fameux Amalécites, qui sont l'image de l'ennemi qui vient vous battre, même lorsque vous êtes vous-même très misérable dans le désert. La vision est donc d'abord positive. Dieu accompagne son peuple et Moïse veille sur ce peuple. Mais en même temps, elle se colore, et c'est peut-être un second temps dans l'écriture et la réécriture des textes, d'un aspect très négatif à mesure que s'accroissent les récriminations et les murmures du peuple. Et donc, en face, les réactions de Moïse, d'Aaron et surtout de Dieu. Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre le Seigneur. Et de fait, la vraie faute du peuple, elle va s'exemplifier avec le veau d'or, mais elle est déjà là tout au long du désert. La vraie faute du peuple, c'est le manque de foi dans le Seigneur quand il ne se manifeste pas. Et ça, c'est, j'allais dire, le péché véritable. La question, le Seigneur est-il avec nous ou non? S'il est avec nous, qu'il se manifeste. La volonté de mettre la main sur Dieu. Et que Dieu se bouge un peu et montre qu'il est avec nous. Ben oui, mais ça, c'est la révolte. Et c'est la révolte qui va se manifester largement dans l'épisode. Alors là, quand même, avant, pour vous consoler, une jolie image de sarcophage du 4e siècle. Moïse qui purifie l'eau. Et ou abreuve le peuple en tapant contre le rocher et les autres accroupis qui sont en train de boire. Voilà. On arrive tout de suite avec le désert à ce qui fait, qui est au fond la cristallisation de tous les murmures que vous allez rencontrer, le fameux épisode du veau d'or, le chapitre 32, qui est difficile, je ne le cache pas, mais que je vous propose quand même de travailler en acceptant que ben vous comprendrez pas trop dans ce chapitre qui est fait de pièces et de morceaux, avec des incohérences, des contradictions, mais au fond, où est posée la question, qu'est-ce que le péché du peuple? Qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu? Et pourquoi faut-il qu'il y ait du châtiment? La faute est-elle collective, individuelle? À quoi ça sert que Dieu punisse? Et puis, qui met en place la figure de ce Moïse intercesseur. La question, c'est bien la question qui court tout au long des murmures. Puisque Dieu a disparu, et surtout puisque Moïse, qui incarne la présence de Dieu, Moïse a disparu puisqu'il a fiché le camp sur la montagne à la rencontre de Dieu, eh bien le peuple se retrouve vers celui qui l'a entre les mains, Aaron, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête. Au fond, fais-nous des dieux qui soient à notre image ou en tout cas qui nous obéissent, voilà, à qui on puisse dire, on te fait confiance, tu es là, va où il faut. Alors, l'Aaron fait une statue de taurillon, de veau. On a mis le veau d'or. L'idolâtrie, quand même, dans les peuples avoisinants, elle est pour le taureau, symbole de fécondité. Là, c'est un petit taureau, un veau. Et puis, il présente à Israël tes dieux. Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et en même temps, Aaron dit, nous allons faire une fête pour le Seigneur. Et j'aurais dû le mettre en majuscule, le Seigneur. C'est bien le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'Aaron est en train de faire? Un support, comme il y en a tant dans les religions environnantes, pour que Dieu vienne s'y installer et s'y reposer. Et au fond, l'arche et les chérubins dans le temple, ça sera ça, un support pour que Dieu vienne au milieu de son peuple. Et on a des images et on a même retrouvé des statues de veaux ou de taureaux ougaritiques qui sont pas des dieux mais le support du dieu qui doit venir. Voilà. Est-ce que c'est un conflit qui à un moment a été donné, a été exemplaire de la lutte contre les images avec au début du décalogue, au début de la loi, tu ne feras pas d'image de dieu et qu'on a finalement amplifié en disant tu ne feras pas d'image du tout, ce qui n'est pas ça, tu ne feras pas d'image de dieu. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné dans ce texte la polémique très vive du royaume du sud contre le royaume du nord? Et donc là, on est dans des récits anciens, puisque c'est quand le royaume du nord existait, puisque le royaume du nord est censé avoir mis un taurillon de chaque côté du royaume, à Bethel d'un côté au sud, à Dan au nord de l'autre, pour montrer que le Dieu d'Israël a aussi des appuis chez eux. Mais le royaume du sud y a eu une idolâtrie et on condamne cette idolâtrie. C'est compliqué, l'histoire du veau d'or et les raisons de la. Pourquoi il y a faute? Moi, je crois que Dans la cohérence du désert, la faute essentielle, c'est bien celle-là, se faire un Dieu à son image, un Dieu qui vous obéisse, un Dieu sur lequel on est la main. Après, il y a l'idolâtrie, il y a l'idée des images, il y a toutes sortes d'autres choses. Le péché, c'est quand même, je crois, celui-là. Alors, voilà des jolies représentations de l'histoire du veau d'or. Moïse a reçu les tables, ça date du XIIIe siècle, une enluminure, hein, a reçu les tables de la loi, les brise en descendant, pendant que les autres sont en train de sonner du cor et d'adorer le veau d'or ou Dieu qui descend sur son veau. En tout cas, il y a la figure de Moïse qui est essentielle dans cette histoire. Elle est magnifiquement redite ou dite par le psaume 106 qui vraiment dit bien ce qu'est Moïse. Moïse, cet intercesseur à la fois solitaire et solidaire du peuple. Moïse, son élu, se tenant sur la brèche devant lui, détourna sa fureur. Moïse se dresse devant Dieu et refuse sa proposition qui est « J'efface ce peuple, je l'anéantis et je recommence avec toi. Je ferai de toi une grande nation. » Vous voyez le deal quand même, c'était intéressant. Moïse dit non et ne recule pas devant le chantage où il rappelle Dieu à sa fidélité en disant « Mais les autres vont se moquer de toi. » Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire disparaître dans ce désert. C'est étonnant, hein, le chantage que Dieu, que Moïse exerce envers Dieu. Et Dieu, d'une certaine façon, semble pardonner, puis Moïse va descendre, et puis il va y avoir une histoire horrible, parce que Aaron va dire, mais c'est pas ma faute à moi, c'est leur faute à eux, et Moïse va appeler les fils de Lévi, et va faire mettre à mort au moins 3000 personnes dans le peuple. Voilà. Alors, on ne sait pas. Il y a eu un moment donné où il faut dire, on met des gens à mort parce qu'ils ont été idolâtres, ils ont abandonné le Dieu de leur père. Il y a eu une tradition comme ça. Mais une autre tradition fait remonter Moïse auprès de Dieu et Moïse demande à Dieu d'avoir pitié du peuple. Sinon, solidaire avec le peuple, il demande à disparaître. Efface-moi du livre que tu as écrit. Et ça, c'est repris aussi dans les nombres. C'est repris dans les nombres. Moïse est solidaire avec le peuple au point de, si Dieu fait disparaître le peuple, de vouloir disparaître avec lui. Dans les nombres, on a un Moïse découragé qui va parler au fond à Dieu en lui disant « Mais c'est toi la mère du peuple, c'est pas moi. Moi, je suis pas la mère. Pourquoi as-tu mis sur moi la charge de ton peuple? Est-ce moi qui l'ai conçu ?» Voilà. Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple. Je ne suis pas la nourrice non plus, qui porte l'enfant. Il est trop lourd pour moi. Tue-moi donc, je t'en prie. Moïse prie entre l'exigence de Dieu et l'infidélité d'un peuple avec qui il est solidaire, mais qu'il est incapable de ramener vers son Dieu. Voilà, Moïse, l'homme à qui Dieu parle face à face, bouche à bouche, pour finir sur cette figure étonnante de Moïse, à la fois solitaire et solidaire, si proche de Dieu, même s'il est prêt à mourir avec et pour son peuple, des textes étonnants où on voit que Moïse parle, Dieu parle à Moïse, c'est la suite du veau d'or, hein, chapitre 33, face à face, comme on se parle d'homme à homme, donc Moïse partenaire, égal de Dieu, et puis non, tu ne peux pas voir ma face. L'homme ne saurait me voir et vivre. Voilà, une autre tradition qui dit non. Et Dieu dit à Moïse, quand passera ma gloire, je t'abriterai. Quand je passerai devant toi, j'écarterai ma main. Alors il dit qu'il mettra sa main devant les yeux de Moïse. Et puis j'écarterai ma main, tu verras mes arrières ou ma trace. Mais ma face, on ne peut pas la voir. Voilà, ce que l'homme peut voir, l'homme Moïse en tout cas, c'est la trace du passage de Dieu. Ses arrières, sa gloire. Néanmoins, Moïse remonte sur la montagne et reçoit les nouvelles tables de la loi. Le Seigneur passe devant lui et à nouveau proclame son nom, le Seigneur Dieu, Dieu de miséricorde et de tendresse, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Et Moïse redescend avec les nouvelles tables de la loi dont il est le médiateur. D'une certaine façon, quand j'ai préparé cette proposition de travail, cet été, je me suis dit, ben là, on est arrivé au sommet. Voilà. Moïse, tellement proche de Dieu, qui veut mourir pour le peuple. Et puis je me suis dit, tu exagères. Tu es en train de nous faire une figure christique de Moïse. Évidemment qu'on pense à ça. D'ailleurs, si vous croyez, si vous aviez cru en Moïse, vous croiriez en moi. Évidemment qu'on a envie de dire ça. Je me suis dit, non, il faut être honnête. Pour le monde juif, Moïse est aussi autre chose. Il est cet homme très humble, plus qu'aucun homme de la terre. Il est ce prophète qui est à la fois le serviteur, l'homme de confiance de Dieu. Et Dieu se met en colère, hein, quand les autres critiquent Moïse. Comment osez-vous critiquer mon serviteur Moïse? Il est celui qui, dans l'histoire du Deutéronome et donc dans la fin de la Torah, va si loin qu'il n'entre pas dans la terre promise. Donc finalement, ce qui importe pour vivre de la loi, c'est comme Moïse, de rester attaché à la Torah de Dieu et à la loi, comme le dira un auteur du XXe siècle, comme terre portative. Il suffit de la loi de Moïse pour rester un serviteur de Dieu et un juif fidèle. Et d'ailleurs, c'est finalement un Moïse qui meurt, mais est-ce qu'il meurt vraiment? Oui. Dieu l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, donc en dehors d'Israël, près de Beth-Péor, et nul n'a jamais connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse qui a disparu finalement avec Dieu, un peu comme Élie, le prophète qui est enlevé dans un tourbillon de feu auprès de Dieu. Or, dans la scène de la transfiguration, dans les évangiles, autour de Jésus, on retrouve Moïse et Élie. Pour le monde juif, Moïse, c'est la Torah. C'est pas d'abord une figure christique, c'est la Torah. Et donc, il fallait aussi vous parler de ce Moïse qui est finalement le législateur. Moïse ou la loi. J'essayais de ne pas être trop longue, juste vous donner quelques points pour ne pas vous charger trop. Mais dans la tradition juive, Moïse, qui n'est pas entré sur la terre, est le médiateur de l'Alliance, le garant de la loi, comme je le disais au début, chaque sabbat. On lit Moïse dans les synagogues, dit Jacques, à l'Assemblée de Jérusalem en acte 15. Alors, la loi de Moïse, à partir de quand est-ce qu'on l'a suivie et respectée? D'après la tradition deutéronomique qui arrive dans le royaume du Sud au moment de Josias, c'est-à-dire elle apparaît cette tradition lorsque Josias va reconstruire, arranger le temple de Jérusalem, on découvre un rouleau de la loi. On découvre un rouleau de la loi, on le fait authentifier par une prophétesse qui vient du Nord, et on dit que c'est le rouleau de la loi de Moïse et que désormais le roi et tout le peuple vont la suivre. Dans ce Deutéronome tel que, non, attendez, dans ce Deutéronome tel que nous l'avons, mais au cœur du Deutéronome, il y a bien cette image du roi qui écrira pour lui dans un livre un double de cette loi. Il l'apprendra auprès des prêtres lévites. Il devra l'avoir avec lui tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre le Seigneur, à observer toutes les paroles de cette loi en les mettant en pratique. Quel est le peuple dont la loi n'est pas la loi du roi, l'État c'est moi, mais dont la loi est la loi de Dieu que le roi doit lui-même mettre en pratique en exemple pour son peuple? Et c'est bien ça, l'idée de la découverte de la loi dans le temple sous Josias. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que on se met à célébrer la Pâque selon la loi de Moïse. Au retour d'exil, lorsque la réinstallation se fait et est difficile, lorsque disparaît le dernier descendant de David qui était revenu visiblement de Babylone, Zorobabel, mais qui disparaît, et que ce sont les prêtres qui vont organiser la vie religieuse d'Israël, la Torah va être mise en forme, comme je vous l'avais dit. Et il y a une lecture solennelle de la Torah par Esdras, le scribe, qui va être aussi Esdras, le prêtre. Il dira à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Esdras, le prêtre, apporta la loi devant tout le peuple. On va lire la loi, on va la traduire à mesure pour que le peuple comprenne, parce que le peuple ne parle plus qu'araméen au retour d'exil et que la loi est en hébreu. Et la pratique du Targoum à la synagogue trouve là son origine. On est au fin du 5e, début du 4e siècle, au milieu du 5e siècle. On traduit, donc la loi de Moïse, elle est traduite devant le peuple. Et on va effectivement faire une grande fête, une célébration, une liturgie pour dire que désormais on obéira à la loi. Moïse est bien le médiateur, le législateur et aussi pour le peuple, l'interprète de la loi. Voilà, belle image de Moïse recevant la loi et la donnant au peuple. Alors, je finis de façon rapide en essayant de vous montrer, c'est pour moi le plus difficile, mais je crois que c'est très intéressant, que les récits que vous allez lire dans l'Exode sont souvent des récits qui introduisent des rites ou qui mettent en scène un rite, mais le récit est d'abord donné comme l'ordonnancement du rite, une loi pour appliquer le rite, et notamment le rite de la Pâque, qui ne fait pas partie de la loi donnée au chapitre 19 de l'Alliance, mais qui, au moment où le peuple va sortir d'Égypte, est présenté comme un rituel avec ses prescriptions. Un rituel avec ses prescriptions, c'est très étonnant, ce chapitre 12. Alors, la difficulté, c'est que on peut pas, en cinq séances, tout travailler dans l'Exode. Mais lisez quand même ce début du chapitre 12 qui est très étonnant. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier mois, celui que vous mettrez au commencement de l'année. Parlez ainsi à la communauté d'Israël, le 10 de ce mois que l'on prenne, il n'est pas question de sortir d'Égypte, il est question des prescriptions de la Pâque et de la fête des Azymes. Et en même temps, entrelacé avec les prescriptions, on a le récit du fait qu'il faut mettre du sang sur les linteaux de la porte parce que le destructeur va passer, épargnera les enfants d'Israël et que le peuple pourra partir. Il faut être les sandales aux pieds, le bâton à la main, manger rapidement, donc la viande rôtie avec des herbes azymes et ne pas en laisser partir, voilà, etc. C'est-à-dire que le rite va nourrir le récit va engendrer le rite, les deux sont étroitement liés. Il n'y a pas, au fond, de récit de sortie d'Égypte qui ne soit lié aux prescriptions de la loi de Moïse et à cette Pâque qui donc s'appuie sur le récit qui en est en même temps le premier accomplissement. Cette nuit-là appartient au Seigneur, c'est une veille pour tout Israël d'âge en âge. D'une certaine façon, le récit au centre de la prière eucharistique est du même ordre. C'est un rite qui s'appuie sur un récit et un récit qui engendre le rite, celui de la scène. Bon, j'aurais voulu vous parler aussi, mais c'est trop tard, de l'alliance au Sinaï avec le don de la loi à Moïse et ses phrases extraordinaires. Je vous ai fait porter sur les ailes de l'aigle et je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Écoutez ma loi, suivez mon alliance. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce qui a été repris par les chrétiens dans la première lettre de Pierre. Un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est ça qui est demandé à Israël, qui sera repris dans la loi de sainteté, dans le Lévitique. Il faudrait parler du Décalogue, l'espèce de un texte qui certainement est un peu tardif, l'époque de Josias, là aussi, qui vient probablement d'abord du Deutéronome, qui ensuite est mis dans l'Exode, mais qui est au fond le chapeau de la loi. Et c'est très intéressant, dans l'Exode, Moïse est en train de parler. Et tout d'un coup, il laisse la place à Dieu pour que Dieu édicte lui-même le décalogue. Avec d'abord le fait que tu honoreras le Seigneur ton Dieu un seul. Tu ne feras pas d'image. Je suis le Seigneur ton Dieu. On peut penser qu'à ce moment-là, le décalogue échappe à Moïse, ou au contraire, moi je pense que ça lui donne une autorité plus grande. Hein? La quintessence de la loi de Moïse, c'est le décalogue et c'est le Seigneur lui-même qui le prononce. Le dernier texte que j'aurais voulu regarder avec vous, mais je n'ai pas le temps, c'est la célébration de l'Alliance au chapitre 24. Regardez ce texte, c'est très intéressant parce que c'est le moment où Moïse écrit la loi. La loi devient écriture. La loi devient écriture, l'Alliance c'est un livre. Et désormais, de génération, d'âge en âge, alors certainement plutôt à partir d'Esdras, mais on va lire le livre de la loi, le proclamer. Alors il y a tout dans ce texte. Il n'y a pas de livre de la loi sans la proclamation devant tout le peuple. À la proclamation, le peuple répond, nous mettrons en pratique et nous écouterons. C'est d'abord la pratique. L'écoute vient comme après, j'allais dire. Donc c'est la mise en pratique qui répond aussitôt à la proclamation de la loi. Et vient se greffer là-dessus un sacrifice de paix offert par les jeunes gens et le sang de l'alliance dont Moïse arrose le peuple et l'autel comme signe de la vie remise à Dieu. Mais ce sacrifice, il est étroitement lié. Il encadre la lecture du livre et la réponse du peuple, nous mettrons en pratique. Autrement dit, un éclairage sur le sens du sacrifice. Il n'y a sacrifice à Dieu qu'en lien avec une lecture du livre et la mise en pratique par le peuple de cette lecture. Et puis, un petit pas bémol, mais encore une fois, d'autres traditions, ce même texte, sont entrelacées différents protagonistes. Moïse et 70 anciens. Moïse, tout le peuple et les jeunes gens. C'est eux qui font le sacrifice. Et c'est le peuple qui dit, nous mettrons en pratique et nous écouterons. Et puis, c'est simplement quelques-uns, Moïse et les 70 anciens, trace peut-être d'une époque très sacerdotale, qui va ensuite manger le sacrifice de l'Alliance, on ne sait où dans le ciel, auprès de Dieu. Ils virent, le peuple d'Israël, ils mangèrent et ils burent. C'est assez étonnant, cette espèce de repas de l'Alliance, mais l'Alliance est toujours un repas qui, au fond, se fait à travers ces 70 anciens, Moïse et Aaron, donc un plus grand nombre que Moïse, tout auprès de Dieu. Voilà, pour conclure sur Moïse, figure du peuple fidèle à l'Alliance, figure de ceux qui mangent et boivent dans la proximité du Seigneur, mais surtout à Moïse qui écrit, lit et traduit, explique la loi. Voilà, je suis allée un peu vite. Excusez-moi, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je vous laisse quand même la parole. Et je crois que je vais revenir au premier Moïse. Voilà. Alors, peut-être pour vous laisser la parole, j'arrête le partage, comme ça je vais voir plus de monde. Ceux qui auraient des questions, est-ce que vous voulez bien vous manifester en ouvrant votre micro? Je vous entends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Mais il faut pour ça ouvrir votre micro. Non? J'entends rien. J'essaye de vous voir. Vous levez la main. Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas de questions. Vous êtes assommé, si j'ai bien compris. J'ai réussi à vous assommer. Bon, est-ce qu'il y a des choses où vous êtes perdu? On va procéder comme ça. Non. Bon, alors. Je ne voudrais pas rater quelqu'un. Non, tout le monde est perplexe. Bon,
Non,
ça
non,
vous
pas
va?
perplexe, mais charmé.
Ça vous va quand même de travailler chez Moïse?
Ah
Vous
oui,
n'êtes pas
très bien.
dégoûté à tout jamais?
Oui, c'est très intéressant. Je suis ravie.
Alors, le détail de tout ça, vous allez le trouver dans les textes, évidemment, et vous allez trouver bien plus de choses que ça, parce que moi, je suis passée au galop. Vous allez trouver des éléments, vos animateurs vous donneront le détail de ce que j'ai raconté ce soir sous forme de conférence. J'entends des bruits, mais c'est loin. Bon, alors écoutez, dans ce cas-là, je vais vous dire, il faut aller dîner. Voilà. C'était l'apéritif. Maintenant, il faut aller dîner. Je vous souhaite un bon parcours.
Eh ben, merci beaucoup, Roselyne. Et puis, on va lire les textes en groupe, effectivement.
Ah oui, vous allez lire et puis vous allez travailler et vous allez
Voilà.
faire des tas de découvertes. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr qu'il y aura des découvertes et j'espère de belles découvertes avec le fait qu'il y a quelque chose quand même finalement d'insaisissable dans ce
Et
monde.
oui, parce que finalement, enfin, alors, enfin, c'est peut-être une question très naïve, mais est-ce que quand même on est sûr qu'il y a eu une figure à Moïse, même si on ne sait pas grand-chose, ou bien est-ce qu'au fond on peut imaginer que la figure est complètement fabriquée? Enfin, je ne sais pas trop comment poser ma question, mais ce qui a été dit au début, ça m'a quand même un petit peu troublée.
Vous a un petit peu troublé.
Oui.
Ben, ce que je voudrais dire, c'est que la
C'est
suite, au fond, a montré que Moïse, ce n'est pas les questions qu'on se pose au début, c'est la massivité du personnage qui a été là, qui est présent à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la massivité de tout ce qu'on a traversé dans les textes autour de ce Moïse qui fait que Moïse, il est incontournable. Et j'allais dire, à la limite, la question historique ne se pose plus. Parce que depuis au moins 25 siècles, Moïse est incontournable. Alors, quelqu'un qui a 25 siècles d'existence, c'est pas mal. Et qui a cette importance centrale. Moïse, c'est la loi. Et c'est celui dont le Nouveau Testament vous dit, si vous croyez, si vous aviez cru en Moïse, vous croiriez en moi. Donc, massif pour la tradition. Massif aussi et incontournable pour la tradition chrétienne. Mais j'allais dire, à la limite, la question de l'histoire, elle devient peanuts par rapport à l'importance de Moïse dans l'histoire.
Non, mais je suis tout à fait prête à rentrer là-dedans. C'est juste que j'étais restée sur une idée un peu simpliste de, bon, Abraham, pour moi, c'était clair qu'on était un peu dans une figure mythique, mais je pensais qu'on commençait en gros l'histoire avec Moïse, quoi.
L'histoire, elle commence vraiment après David. Hein. À partir, alors, vous avez vu qu'on a des stèles, qu'on a des choses, mais l'histoire, l'historien peut trouver par croisement des documents. C'est quand même après, à partir du 9e, du 10e, surtout 9e siècle. Voilà. Avant, il y a plein de vraisemblances, il y a plein, et il y a eu des choses. Il y a aussi, l'argument massif aussi, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et il n'y a pas ce nom égyptien pour ce qui est, au fond, l'incarnation d'Israël. La
Est-ce qu'on
figure
pourrait
qui porte
considérer
Israël. Voilà. Donc.
Que c'est par l'intermédiaire de, enfin, que c'est Moïse qui a fondé le peuple
Mais c'est comme
hébreu?
ça que c'est. Alors, fondé, je ne sais pas.
Ah, je sais pas si on peut
Mais.
dire fondé, mais
Était l'agent de Dieu pour l'acte de naissance du peuple. Oui, c'est ça qui est dit. C'est ça qui est dit. Hein? Tout à fait. Ça, c'est comme ça que Moïse est vu. Je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Et que ça, on peut le dire. On peut le dire. Voilà.
Alors moi j'ai lu aussi, j'ai acheté le cahier de l'évangile sur Moïse et
Oui.
j'ai commencé à le lire et je trouve qu'il est très intéressant.
Oui, alors. Bibliographie première, si vous voulez, le cahier évangile, le dernier cahier évangile. Nous avions choisi de travailler la figure de Moïse avant qu'il paraisse, et sans savoir qu'il allait paraître, mais il est paru un mois après, paru en juillet. Le cahier évangile de Jean-Louis Scat, Moïse, un géant modeste. Moïse, un géant modeste. Alors méfiez-vous. K, c'est toujours limpide. On lit, c'est limpide. Mais derrière, il y a énormément de connaissances, de prises de position. Voilà. Donc, à la fois, on se laisse aller, mais il faut lire doucement.
Quelle va être la traduction qu'on utilisera?
Alors,
pour la lecture de, voilà, de l'Exode et de.
la pratique que nous suivons depuis des années et des années, inaugurée avec Marie-Christine il y a 15 ans ou 14 ans, je crois, parce que c'est Marie-Christine Denillon qui avait inauguré ces modules d'éthique. La pratique, c'est que je vous donne une traduction que je tire de la tobe et que je modifie lorsque la tobe est trop loin, à mon avis, du texte hébreu, ou lorsque on ne voit pas apparaître des choses qui sont tellement évidentes. Voilà. Donc, je modifie un peu la traduction dans ces cas-là. Alors, peut-être que je devrais le faire apparaître, vous n'avez qu'à comparer avec la tobe. De toute façon, la tobe est à nouveau en chantier, de même que la Bible de Jérusalem est à nouveau en chantier. Donc, voilà. Ouf. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le texte hébreu, vous pouvez me poser la question. Vous pouvez poser la question, je la poserai moi à des gens plus savants que moi. On a un animateur qui est plus savant que moi en hébreu. Voilà. Donc, si vous avez besoin, vous posez les questions, hein. Et puis, traduire, de toute façon, c'est toujours un pari et c'est toujours un choix. Donc, il faut accepter. Accepter qu'il y ait un pari, un choix. Mais de toute façon, les textes sont suffisamment, j'allais dire, difficiles et riches pour que. Voilà. Je crois qu'on l'avait dit. Je vous souhaite une bonne soirée. Aude, tu veux dire un petit mot? Non. Alors, je vais vous dire oui.
Elle a coupé son micro.
Une chose, ici, que il y a beaucoup d'anciens de l'année dernière ou d'il y a 2 ans qui rejoignent vraiment les modules cette année. Et donc, ben, ils vont être disséminés parfois dans certains groupes qui existent depuis longtemps. Et voilà, ben, ça fait du buzz.